Voilà. Voilà. Ça devrait être bon. Ça devrait
la dernière fois, on était, la dernière qu'on a fait, on était balancé un dans chaque oreille. Y a-t-il une façon de changer ça?
Ouais, ben à l'avenir, je peux juste la convertir et te le mettre en flat.
Ok.
Comme ça, il faudra aller dans les settings. Je connais pas assez bien mes settings pour.
Parce que c'est pas tant grave que ça. C'est juste que là, après ça, je sais aussi qu'il y aurait sûrement une façon de le faire dans le mix. Et là, je gossais, puis j'étais pas capable de trouver quoi faire. Là, j'étais comme, bon, OK, je vais juste sortir comme ça, mais... Tu sais, là, je pense aux gens, aux pauvres gens à la maison qui ont juste une oreillette qui fonctionne, puis qu'ils entendent juste toi ou juste moi.
Ouais, ben regarde, on veut qu'il y ait les voyeurs au complet.
Voilà.
Et ces voyeurs-là au complet, c'est nous. Re-bienvenue aux Voyeurs de vue, une émission où deux voyeurs devant l'éternel vous parlent des films qu'ils visionnent à chaque semaine. Les Voyeurs de vue sont moi-même, Yannick Belzil.
Et moi, Alex Rose.
Cette semaine, on fait quelque chose de un petit peu hors série, Alex, parce qu'on enregistre deux épisodes back-to-back, car les voyeurs prennent des vacances. Et on va faire un épisode qui est entièrement hors série, qui est entièrement sur des nouveautés qui sont sorties en salle. Et la semaine prochaine, on revient avec notre programme habituel de films, notre chaîne de films. On va venir avec White House Down de Roland Emmerich. Mais cette semaine, on est là pour parler de deux films qu'on a vus tous les deux, que moi, ben, j'ai vus en salle toutes les deux. On va parler du documentaire de Edgar Wright, The Brothers Sparks, et de... F9, The Fast Saga, tel
yes.
qu'il est...
C'est ça le titre officiel.
C'est comme ça qu'il est appelé dans les trailers, et tous les posters montrent F9.
Mm-hmm.
Alors, je crois qu'on doit l'appeler ainsi, vu qu'il faut honorer le fait que la franchise Fast and the Furious...
Il est rendu une saga.
Rendu une saga, mais aussi change sa nomenclature et structure de titre.
À tous les fois.
À tous les fois. Il faut le respecter, il faut l'aimer, il faut l'adorer.
Puis tu sais, l'affaire qui est mystifiante de ça, c'est... Genre, j'ai l'impression que c'est des gros films, c'est des grosses vaches à lait pour le studio. Donc, je ne pense pas que c'est décidé par quelconque personne au bas de l'échelle, comme certaines autres décisions de marketing. Là. Il y a eu multiples meetings avec des gens qui sont des milliardaires, là. Pour déterminer ça.
Mm-hmm.
Puis à toutes les deux ans, ils choisissent quelque chose de différent.
Et oui. Puis regarde, on leur rend très bien. J'écoutais un podcast cette semaine, un épisode de Blank Check, et où ils parlent, dans leur mini-série sur John Singleton, ils parlent bien sûr de Too Fast, Too Furious, le deuxième film. Et à un moment donné, j'ai réalisé que le quatrième film, qui s'appelle juste Fast and Furious, par les fans, les fans de Fast and the Furious, ils l'appellent ampersand parce que c'est le symbole et en anglais. Là, fait que quand ils parlent de Fast 4, ils disent pas Fast 4, ils disent ampersand. Oh, ampersand, c'est celui-ci, c'est celui-là.
Oh boy.
Mais revenons à nos moutons avant de passer sur Fast and the Furious. On va parler de. C'est ici que je vais me dévoiler politiquement. Moi, quand il s'agit de ce cinéaste-là, je me considère right-wing. Et on parle, bien sûr, de Edgar Wright, qui a réalisé...
Chris.
Ouais. Les gens ne voient pas la face d'Alex, mais c'est une des rares fois qui m'a moins ou pas appuyé dans mes blagues. Et j'utilise ce moment-là pour réaliser à quel point tu m'appuies dans mes blagues.
Mais il y a eu un moment où est-ce que j'étais genre, de quoi qu'il parle, tabarnak? Puis quand j'ai fait le lien, j'étais comme, ouf.
Ouf!
Ouf! Ouais. J'ai fait...
Bref,
c'est invraisemblable.
C'est un rare. Oh. Marc Favreau, hein?
Bibliothèque nommée à son nom.
Miss You, t'es la joint.
Côté du métro Rosemont.
Puis, on est là pour parler du film, le documentaire Les Sparks Brothers, qui est sorti la semaine dernière en salle, qui n'est pas sorti vraiment à grande échelle à Montréal. Je pense qu'il est juste au cinéma du parc. Mm-hmm. Du moins, c'est là que je suis allé le voir. Il y avait 6 autres personnes. Et c'est un documentaire sur un groupe à la fois mythique et très méconnu,
mm-hmm.
qui s'appelle Sparks. Je dirais que j'ai un très mauvais vocabulaire musical. Alors, avant qu'on parle du documentaire, Alex, comment peut-on décrire Sparks? Qui sont?
C'est deux frères, les frères Male. Male? Ça se prononce-tu Male? J'ai vu le film au complet.
C'est à peu près Male, oui.
Ouais, quelque chose comme Male.
Ça s'écrit Mael.
Oui, ça s'écrit Mael. Russell et Ron Male. Puis eux autres, ils viennent de la Californie.
Mm-hmm.
Mais la musique sonne pas du tout comme ce que tu associerais avec de la musique californienne de peu importe quelle époque. Fait que tu sais, au début, même avant de Sapley Park, ça s'appelait Half Nelson. Là, c'est, ça s'inscrit comme dans un genre de pop rock fin années 60, vaguement psychédélique, là, mettons. Puis quand ils sont devenus Sparks, là, ça devient très glam, tu sais, similaire à Queen, je te dirais. Tu sais, enlève le rock de Queen, puis garde, mettons, le beaucoup la pageanterie, là, puis tu sais,
l'opéra,
tu sais, spécifiquement. Puis là, avec le temps, ben, tu sais, ça a changé. Ils ont rajouté des éléments, des fois plus de rock. Fin des années 70, ils sont beaucoup tombés dans les synthétiseurs, puis, mais bien en avance. Ça, c'est une affaire que j'ai appris dans le film, tu sais. C'est comme leur tune, leur album produit par Giorgio Moroder, qui est Number One Song in Heaven, je pense.
Oui, c'est exact.
Et comme vraiment en avance sur son temps, ça sonne comme de la musique des années 80 de 86, là, genre, tu sais. Puis c'est comme en 78.
Mm-hmm.
Puis. Puis avec le temps, c'est ça. Le gros de leur succès commercial a terminé vers les années 80, mais ils ont toujours continué à exister. Puis c'est surtout à cause de. Je te dirais, ils sont plus un groupe culte en Angleterre. Tu sais, dans le film, on voit beaucoup de clips de. Genre Top of the Pops ou.
Puis des différents talk shows européens, tu vois, des shows français, allemands.
Fait que, tu sais, comme les disques de Sparks se trouvent au Canada puis aux États-Unis, il y en a, là. Tu sais, si tu vas dans un magasin de disques usagés, il va y avoir des pressages canadiens des disques de Sparks, mais je pense pas. Tu sais, ici, c'était vraiment méconnu. Tandis que je pense qu'en Angleterre, tu sais, ils sont plus en ligne avec les courants musicaux de l'Angleterre. Dans le sens que, tu sais, justement, ils font comme un peu prédire le New Wave, ils prédisent, tu sais, ils sont plus comme dans le glam, dans les affaires un peu, tu sais, comme baroque, pompeux, tu sais, ce qu'on qualifierait peut-être de art pop, là, mm-hmm. Tu sais, comme, sans, avec des sonorités très pop, tu sais, pas vraiment prog dans leur approche, tu sais, fait que, tu sais, il y a un hook, puis quand t'entends la mélodie, tu t'en rappelles, mettons. Mais c'est très éclaté, c'est très étrange, les paroles sont très sarcastiques, funnées. Ce qui est une autre affaire qui est très britannique aussi de ce band-là, là, c'est beaucoup d'emphase sur les paroles, puis un peu comme la performance idiosyncrasique un peu des
oui, parce qu'il y a un des frères, Ron, pour le gros début de la carrière à la télévision de Sparks, une moustache de Hitler.
Exact.
Il fait des... Sérieux, là, il m'a fréquemment fait rire parce que tu le vois, tu sais, c'est... Imaginez que vous écoutez comme n'importe quelle émission pop où il y a une performance musicale, puis t'as un gars qui ressemble à Hitler, puis il fait des faces de « Oh, suis-je là? Est-ce que j'ai empoisonné quelqu'un dans la foule?
Ouais, »
Je
ouais.
ne vous le dirai pas. Pendant qu'il y a pendant que son frère chante, puis qu'il, lui, il fait quelque chose de super comme théâtral ou des fois
c'est
vraiment
ça.
Pop.
Puis son frère, il est vraiment, tu sais, il est beaucoup plus comme teen idol, un peu visuellement. Tu sais, il a des longs cheveux bouclés, puis il porte souvent, là, tu sais, comme des genres de suits, nu chest en suits, comme des années 70, là.
Mm-hmm.
Fait que déjà là, il y a comme un contraste visuel juste de... J'imagine, à l'époque, t'entends la toune à la radio, puis là, tu les vois, puis tu fais « What the fuck? » Tu sais, je pensais que c'était peut-être une fille qui chantait, puis finalement, ce sont ces deux hosties de weirdo-là avec des sous à paillettes puis des moustaches de Hitler qui... Fait que, tu sais, moi, ma connaissance de Sparks, c'est pas... Tu sais, je possède un disque de Sparks, je possède Kimono My House de Sparks, qui est probablement leur album. Tu sais, c'est, mettons, l'album de Sparks qui est... souvent sur les top 500 albums de tous les temps ou whatever, tu sais, c'est le plus acclamé là, par la critique. Mais, tu sais, je peux pas dire que j'aime tant ça que ça, je te dirais. Tu sais, je trouve ça intéressant. C'est jamais venu me chercher tant que ça. Je l'ai surtout parce que c'est le genre d'affaires qu'on dit que tu devrais écouter.
Mm-hmm.
Puis, en regardant le film, c'est ça, je me suis rendu compte. Ah, moi, j'aime plus la période... Tu sais, ce qui est étrange, parce que d'habitude, j'aime tout le temps les premiers albums de whatever artiste. Mais là, j'aime vraiment la période Number One Song in Heaven, puis début des années 80, où c'est très dancey, tu sais, synth-pop exagéré. Là. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Tandis que l'autre affaire me semble beaucoup plus affectée, tu sais, beaucoup plus... tu sais, c'est le genre d'affaire qui vieillit moins bien, là, je trouve. Là, tu sais, ce genre de regard, on est étrange. Là.
Ouais, ouais, ouais.
Puis on l'entend, tu sais, c'est ça, les tunes sont moins... sont pas faites pour danser. C'est moins des tunes que tu t'entendrais entendre, mettons, dans une discothèque. Donc, tu penses plus aux paroles, tu penses plus à... T'sais. Tandis que les tunes, puis tu sais, les tunes de ces albums-là, de Number One Song in Heaven, puis l'autre après qui est... ouais, je me souviens pas, mais en tout cas, sont beaucoup plus... ils sont beaucoup plus communes, mais ils sont beaucoup plus intéressantes que le genre de stock qui sonnait comme ça, qui était aussi là à l'époque, là, genre. Je dirais.
Ouais. Fait que moi, je connaissais pas du tout Sparks. Puis, fait que bref, j'en ai vraiment entendu parler quand j'ai vu le trailer pour le film. Puis je me suis dit, ah ben, je vais aller le voir parce que, tu sais, comme j'ai dit, j'aime beaucoup Eddie Rice, c'est mon réalisateur préféré. Et puis j'étais aussi intéressé justement de voir de quoi ça allait avoir l'air comme un documentaire réalisé par lui. Tu sais, puis ce que j'ai découvert, premièrement, de découvrir le groupe, j'étais comme, tu sais, je trouvais ça vraiment particulier. Mathieu Poirier, notre ami et notre co-maître cuiseur de Cinéquiz, quand ça va revenir, on croise les droits que ça revient un jour. Il m'avait dit comme, j'ai l'impression que c'est comme un documentaire de prank que je suis supposé faire semblant que ce groupe-là existait tout ce temps-là. C'est comme surprenant à quel point qu'ils sont vastes, connus, puis tout ça, mais ça a quasiment l'air comme il aurait pu être un groupe fake, puis c'est comme
une affaire de Christopher Guest, genre un Spinal Tap.
Oui, exactement, c'est une situation Spinal Tap. Mais j'ai aimé ça les découvrir, ça m'a donné le goût d'écouter un peu, ben mettons, de rentrer dans leur musique par la voix, mettons, d'un best-of ou une affaire comme ça, tu sais, ça me plaît à travers les affaires. Mais j'ai vraiment trouvé l'histoire, leur histoire comme... C'est un bon survol, tu sais. Ça se garde d'être juste comme un Wikipédia, mais leur vie, puis leur... Tu sais, eux, en tant que groupe, ils restent tout de même mystérieux et cool, mais tu sais, la porte est juste un peu ouverte pour nous dire comme, ah ouais, tu sais, à cette époque-là, je pense qu'il était vraiment triste que cet album-là n'ait pas pogné. Il y a plein de trucs du genre aussi que, tu sais, clairement, il trippe sur eux autres, mais il veut pas... Il veut dire que c'est les best, il veut pas les démystifier non plus. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de cette façon-là. Puis aussi, comment ils racontent certains bouts, comme tu vois beaucoup de leur passage à American Bandstand avec Dick Clark. Puis il y a une scène que leur parcours, justement, américain est surtout tracé par ça. Et il y a une scène qui nous montre, il y a un segment qui nous montre comme pendant 6-7 ans, il se passe rien pour eux autres. Puis c'est tout illustré avec des bouts du show du Nouvel An de Dick Clark, justement. Fait que t'as encore comme la présence de Dick Clark pour symboliser quelque chose, mais là, c'est comme... Il se passe rien!
C'est pour symboliser l'absence de quelque chose.
Ouais, c'est comme... Bonne année 93! Intervenant, ouais, ils n'ont pas sorti le 10 cette année-là non plus. Bonne année 94! Ouais, ça allait pas bien, là, tu sais. Là, je suis comme... Oh, shit! Il y a des trucs comme ça que j'ai trouvé bien, puis... c'était... Parfois, justement, quand ça parle de leur désir de... C'est cool qu'ils fassent ce qu'ils veulent, et parfois ça a du succès, et parfois ça n'a pas de succès, mais ils nous parlent des fois un peu de leur mélancolie de pas aller plus loin avec leurs insuccès sans vouloir être comme « Oh, on aimerait ça être populaire qu'on lisse.
Ouais. »
C'est plus comme « Non, on aimerait ça que ça marche. » Puis ben ça, j'ai trouvé ça nuancé.
Ce qui est intéressant, c'est bon, tu sais, ça s'inscrit dans une lignée de documentaires. Là, il y en a d'autres comme ça, genre Jim Jarmusch en a fait un sur les Stooges, Todd Haynes en a un qui s'en vient sur Velvet Underground. Mais tu sais, des documentaires un peu que, tu sais, qui ont tellement de d'influence derrière eux de par le réalisateur, ou réalisatrice, mais généralement réalisateur, là, que ils ont un accès que peut-être des documentaires. Parce que, mettons, il y a 20 ans, des documentaires sur les bands, ça existait tout le temps. T'sais, il y en a un sur les Ramones, mettons, plus de fois. Mais c'était pas fait par des réalisateurs avec tant d'accès que ça. Fait que, c'était souvent un peu broche à foin. C'était rapiécé. Les intervenants étaient souvent... Des fois, on voyait peut-être pas le band ou juste quelques membres du band là, qui voulaient pas participer, tout ça. Parce que, t'sais, il y avait pas vraiment, je pense, le budget pour payer les intervenants, nécessairement. Mais là, c'est ça. Avec Sparks, ce qui arrive, c'est que tout le monde est vraiment content d'en parler et il y a accès à Sparks eux-mêmes. Mais l'affaire aussi, c'est que contrairement aux Stooges ou à Velvet Underground ou whatever, Sparks 1 existe encore. Ils n'ont jamais cessé d'exister. Puis ils n'ont jamais eu vraiment de problème de drogue ou d'affaires de descente aux enfers qui viennent scraper le band. Fait que, tu sais, à la base, on pourrait se dire, ben, c'est un peu dull comme arc narratif de band parce qu'on a tellement vu tout le temps l'affaire où c'est comme. Puis là, il y en a un qui est mort. Fait que là, il a fallu qu'on amène un autre. Puis là, il y a tout le temps dans ces documentaires-là aussi. un bout de ce que quelqu'un est comme, mais là, la musique que je fais maintenant, c'est ça qui est vraiment bon. C'est la musique que j'ai toujours voulu faire, tu sais. Puis c'est comme une condition sur le réalisateur que dans les 10 dernières minutes, il faut que tu plugues vraiment gros le nouvel album, le nouveau band, whatever, ce genre de shit-là. Il n'y a rien de ça dans Sparks. T'sais. À cause, justement, je pense, en partie parce qu'Edgar Wright a quand même, tu sais, du cachet. Puis en partie parce que ça s'applique pas à Sparks, ces affaires-là. Tu sais, leur vie est pas comme ça.
Tu sais, en fait, la seule comme genre de semi-promotion qu'il y a, c'est « Ah ouais, ben là, ils ont fait comme... » Il y a le film Annette qui s'en vient de Léo Carax, ouais, qui est basé sur un de leurs scripts. Fait que c'est, mais c'est plus comme... On sait pas ça va être quoi, on a hâte. C'est plus intriguant que justement de la plug. Là.
Ouais, c'est fait effectivement un peu traité comme du EPK à la fin. Tu sais, Electronic Press Kit. Mm-hmm. Mais c'est correct. Là. Genre, c'est pas une affaire qui vient vraiment ruiner la patente. Là. Mais effectivement, tu sais, moi aussi, tu sais, comme toi, moi, je connaissais pas juste un petit peu ça. Puis ça m'a donné le goût d'en écouter certains, mais aussi. J'ai comme apprécié que ça me donnait pas tant le goût d'aimer ça que ça, tu sais. Que c'était très matter of fact, tu sais. Voici ce que c'est, genre. Puis, l'affaire que j'ai pas aimé, mettons, la seule chose que mon seul bémol, c'est qu'il y a plein d'intervenants par rapport, genre Mike Myers, puis Fred Armisen, puis, tu sais, du monde que je trouve que ça n'a pas rapport, qui sont là pendant 30 secondes, dirait, j'aimais ça, Sparks, tu sais. Puis là, ça, c'est comme, oui, je comprends que t'as beaucoup d'amis, Edgar, mais genre là, le film dure 2h20, puis si t'enlèves tout le monde qui disent des affaires inutiles, on serait en dessous de 2 heures, là. Genre.
Ouais, ou du moins remplacer toutes ces bouts-là par des bouts de Scott Aukerman. Moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment, là. Mais oui, non, je suis d'accord. C'est justement voir Mike Myers, être comme, en tout cas, Sparks, man, cette ligne-là, là. Puis je suis comme, OK, mais pourquoi?
Ouais.
Tu sais, c'est pas... tu sais, Burt Bacharach est dans Austin Powers. Si Sparks avait été dans Austin Powers, là, j'aurais été comme « Ah, OK, oui, c'est pour ça. »
Tu sais, il y a des choses aussi que je peux pas vraiment mettre sur le dos des intervenants parce que je présume que tu sais ils ont dit plein d'affaires puis ils ont gardé. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que ça aurait intérêt à être un peu plus tight sur les intervenants, tu sais. Mais comme la personne que je me souviens qui est inutile, puis ça, c'est rien contre elle, là, mais April Richardson, l'humoriste, là.
Ouais.
Tu sais, elle est full nerd de musique puis de rock, genre, tu sais, ça serait vraiment intéressant d'entendre parler de ça. Puis elle dit juste, genre, oh, they were great, tu sais, elle fait juste, tu sais, comme, ils ont juste pris. Puis je suis comme un peu, à quoi bon mettre ça dedans, tu sais, c'est comme insultant pour elle, c'est insultant pour moi que je regarde ça. Puis je suis comme, ouais, j'étais pas obligé, tu sais, d'avoir une personne de plus. Quand je sais qu'April Richardson aurait pu dire des affaires vraiment intelligentes, puis elle en a sûrement dit, mais c'est pas ça qui est dans le montage final, tu sais. Mm-hmm. Même principe avec, je sais pas, Fred Armisen. J'essaie de me poser la question qui d'autre qui était dedans, mais... Puis il y a beaucoup de monde de band qui reviennent tout le temps comme étant comme, ah, tu sais, gars, les autres sont dans un band, fait qu'ils comprennent c'est quoi la musique, tu sais. Pour différencier de genre, voici des humoristes qui aiment ça, tu sais. C'est comme, en tout cas, moi, je trouve sur le montage, ça aurait pu être plus tight, mais sinon, tu sais... Quand même, comme film, c'est vraiment intéressant parce que justement, ça évite plein des affaires que ces genres de documentaires-là n'ont pas le choix de faire éventuellement.
Mmh. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis c'était une bonne porte d'entrée. Ben, c'était en effet un petit peu long, mais j'ai l'impression que c'est l'affaire principale. Je sais pas ce qui m'est arrivé dans le chiffre de 2h20. C'est rendu très long pour moi, puis ça dépend, mais en tout cas. J'ai bien aimé ça. Fait que je le recommande aux amateurs de musique ou vous voulez découvrir un groupe de façon comme intéressante. Tu sais, c'est aussi comment qui illustre la vie de Sparks. Tu sais, il y a des bouts en claymation, il y a des affaires de montage intéressantes. Il y a une affaire drôle, il parle de sacré. On s'est fait sacrer en dehors de la maison de disque. Puis là, tu vois des bouts comme de vieux western de monde qui se font crisser en dehors d'un salon.
Ouais.
Ça, c'est comique. Tu sais, c'est des affaires illustrées de façon plaisante. Là. Fait que c'est ça. Je recommande The Sparks Brothers, lorsque vous y aurez accès. Moi, je l'ai vu au cinéma du parc. C'est sûr que c'est le fun à voir sur un grand écran, mais, tu sais, mettons que vous voulez attendre l'écouter en streaming chez vous, j'imagine que ça a du sens, ça aussi. Là.
Ouais, effectivement.
Alex, la nature renaît. Les visionnements de presse ont recommencé.
Mm-hmm.
Et ce matin, toi et moi, à 10h, on est allé au cinéma, on est allé au Banque Scotia, bien masqué, afin d'aller voir... le nouvel opus de la saga Fast and the Furious, F9, de Fast Saga, qui est réalisé par Justin Lin. Justin Lin, il a réalisé une bonne partie de ces films-là. Il a réalisé le troisième, Tokyo Drift, là, il a vraiment commencé à rendre ça plus stylisé. Et après, il a fait Fast and the Furious, Fast et Furious, qui est devenu un genre de reboot. Et après, il a aussi fait, bien sûr, Fast Five,
mm-hmm.
qui est le meilleur de la série, qui est comme le gros, gros reboot. C'est plus des criminels voleurs de chars. Je veux dire, oui, ils sont encore ça, mais sont, à partir de là, ils deviennent des super espions.
Ouais.
Ils deviennent des missions impossibles. Ils deviennent toutes ces affaires-là.
Ouais.
Et depuis ce temps-là, la franchise a juste comme explosé en box-office, en popularité, en réception critique et aussi commerciale. Mais je pense qu'on avait peut-être, on a peut-être parlé quand on avait parlé de Hobbs & Shaw, mais en général, toi, qu'est-ce que tu penses de Fast and the Furious?
Ben, tu sais, je te dirais que... Ben, il y a deux affaires, là. Une, c'est que j'en ai... Ils m'ont tous passé 10 pieds par-dessus la tête avant que ce soit ma job d'être critique de cinéma. Fait que tout ce qui est sorti avant, jusqu'à Fast Five, je pense que c'est... Puis ça, je l'ai vu, genre, parce que tout le monde était comme, « Hey, ça, c'est bon maintenant, tu sais. » Fait que j'étais comme, « Ah, plaît-il? » Mais... Une des pigistes qui travaille pour Colt, Roxane Hudon, elle demandait tout le temps, tu sais, ah, je peux-tu faire les Fast and Furious? Puis, comme habituellement, ça n'eût été de la pandémie, puis je pense qu'elle n'était pas en ville en ce moment, mm-hmm. ça aurait été quand même elle qui l'aurait fait parce que ça m'intéresse pas tant que ça. C'est surtout parce que j'ai pas comme grandi avec, là, entre guillemets, radiophonique, là, tu sais. C'est juste que. T'sais, je me retrouve à la même position un peu que je me retrouve quand je passe à Game of Thrones maintenant. C'est que ça a l'air de beaucoup de travail pour me rendre quelque part que j'ai pas tant d'intérêt à être.
Mm-hmm.
Fait que tu sais, c'est pas parce que j'aime pas ça. T'sais. Là, j'ai vu Hobbs & Shaw, puis j'ai vu l'autre d'avant, le dernier. Là, ça, c'est
Fate of the Furious.
Fate of the Furious, celui-là, avec le premier avec Charlize Theron. Puis j'haïs pas ça. T'sais, mais je te dirais que ça occupe un espace marvelesque dans mon affaire, parce que c'est comme, je suis incapable de les différencier. J'ai toujours du bon temps à les regarder. Je recommande à personne particulier. Genre, j'ai pas de d'amour assez pour dire, ah, tu devrais aller voir ça. T'sais. Mais j'ai toujours du bon temps quand je le regarde.
Ouais.
Là, je me suis fait accuser cette semaine pour mon review de Hitman's Wife's Bodyguard, que j'ai donné un 5 sur 10 en disant, c'est vraiment meilleur que le premier. Je me suis fait fustiger de toutes les bords parce que c'est du escapism, puis tu sais, tu devrais pas dire au monde, ça, tu nuis à la santé mentale des gens en disant au monde de pas aller voir des films qui leur font penser à autre chose que leur vie de marde. T'es un cave, pas tous les films sont faits pour gagner des Oscars, esti de sans dessin.
Mais toi, en plus, habituellement, t'es tout le temps comme, si c'est pour pas gagner un Oscar, j'haïs ça, là.
C'est t'sais, ça. T'es tout le temps, là. Moi, je suis Green Book, only the book.
Ouais, all about that book.
Non, mais tu sais, je me suis fustigé pour ça, puis ce que j'essaie d'expliquer, c'est que j'aime ça, les films d'action, là, tu sais, genre, ça peut, j'ai pas un parti pris contre les films stupides. D'ailleurs, le film qu'on va faire la semaine prochaine est un film stupide que j'aime beaucoup. Mais, je pense que, tu sais, c'est pas tant la nature de la stupidité, mettons, que la vélocité à laquelle la stupidité m'est envoyée qui est importante. T'sais, quand tu envoies de la stupidité trop fort, ça, c'est comme crank. Puis quand tu l'envoies pas assez fort, c'est comme Hitman's Bodyguard, le premier, genre. T'sais. C'est weird à dire parce que c'est des films qui ont énormément d'efforts mis dedans, mais c'est des films comme ça, c'est ça qui peut sembler le plus paresseux de toutes les choses qui se peuvent. T'sais. Comme un mauvais Fast and Furious, un mauvais blockbuster de tout qui pète. Ça me semble tellement paresseux, on dirait que personne n'essayait vraiment. T'sais. Quand, en réalité, j'imagine que tout le monde essaie. Puis ça, c'est doublement de la merde.
Mm-hmm.
Tu t'assumes que tout le monde se démène, si tout le monde arrête de manger, puis ils font des pipes 8 heures par jour, puis on dirait qu'ils sont... T'sais, le film démontre l'effort de quelqu'un qui est juste resté chez eux, puis il n'y a rien. T'sais. Généralement, c'est comme ça que je me sens t'sais, envers ces films-là, dans le sens que je suis toujours optimiste. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est très paresseux puis que j'aurais pu juste penser au film sans le voir puis avoir à peu près la même, la même réaction. Là,
mm-hmm. Ben, tu sais, moi, pour ma part, je veux vraiment aimer ça plus.
Ouais.
Mais j'ai de la misère à me rendre parce que comme j'aime beaucoup Fast Five. Puis quand j'ai vu Fast Five, tu sais, je n'avais vu un dans le passé, je me rappelais plus lequel. Puis, mais c'était assez bien incarné que, parce que la gimmick de Fast Five, c'était comme un an avant que The Avengers sorte. C'est que, là, on amène des personnages de tous les films différents.
Mm-hmm.
Puis là, maintenant, ils sont sont un genre de crew de Ocean's Eleven, mais on a des chars. Puis chacun a comme un skill qui est parfois extrêmement... Une version super chargée de... Tu sais, Ludacris, dans Too Fast, Too Furious, c'est un gars qui bâtit la mécanique genre d'un char monté. Maintenant, il est un super hacker. Tu sais, ouais. Ce qui s'appelle dans le monde du super-héros, il appelle ça du power creep. C'est quand que, comme les pouvoirs vont trop loin un moment donné pour le spectacle. Mais Fast Five, c'est comme le niveau égal de ça. Puis, ils se font chasser par The Rock. Puis, tu sais, la première fois que tu vois The Rock, il est tout suintant. Mm-hmm. Tu vois, il est gros, il a l'air d'un tank. Puis, il y a un avion derrière lui qui s'ouvre, qui monte son véhicule, que lui, il a l'air d'un gros tank. Mais comme tu vois, c'est deux tanks. Puis, c'est comme ça que ce film fonctionne. C'est merveilleux.
Ouais.
Depuis ce temps-là, tu sais, ils font des films où ce que la gang qui volait des DVD dans le premier film, vole une vanne remplie de DVD player dans le premier film, sont maintenant une équipe de Mission Impossible. Puis, il y a plein d'affaires. Il y a un aspect très soap des relations des personnages. Y a que la famille, c'est ça qui est important. Puis ces criminels-là se sont rejoints. Puis à la base, c'est une police qui aimait trop ce dude-là puis qui est devenu ami avec.
Ouais.
Aussi, ce qu'il avait fait, c'est que le personnage de Sun Kang qui joue dans Tokyo Drift, qui joue Han, meurt à la fin de Tokyo Drift. Fait que là, quand ils l'ont ramené comme dans le 4 puis dans le 5, c'était comme « Oh shit, ça veut dire que la temporalité de la série est différente. » Ça veut dire que Fast 5 se passait avant le 3e. C'est genre d'entourloupette-là narrative. C'était comme vraiment excitant. C'est comme des affaires de nerd. Toutes des affaires comme de narration puis d'histoire puis d'univers continu que moi, j'aime beaucoup. Mais là, l'affaire, c'est que j'aime ça, ces affaires-là, mais je trouve qu'à travers les films, ils réussissent plus ou moins à le maintenir, puis que en étant, entre guillemets, stupide, dans les premiers films, depuis le 5, en étant vraiment stupide, ça veut dire qu'il était émotionnellement clair et pur, tu sais, la famille avant tout.
Ouais, ouais.
Mais là, ils ont commencé un peu à plier ces affaires-là parce que là, sont comme, tu sais, ils révèlent dans les backstories que c'est Shaw, c'est Jason Statham qui a tué Han. Fait que là, quand il apparaît dans le 7 ou le 8e, c'est leur ennemi. Mais là, c'est le genre d'univers où tes ennemis deviennent tes amis. Fait que là, dans le 8, ils deviennent amis avec. Puis moi, je suis comme, non, l'affaire principale de ce monde-là, c'est que vous êtes supposé être la famille avant tout, mais là, Jason Statham, il est au barbecue. À la fin, il a tué Han, là. C'est pas d'allure, là.
Ouais.
Comme, votre seule règle émotionnelle, narrative, est brisée maintenant. Puis, c'est là que je suis avec cette famille. Je suis comme, j'aimerais ça les aimer autant que je vois du monde en ligne les aimer, qui les aime à 100%. Mais moi, je suis tout le temps comme à 65% depuis le phase 5. Fait que je suis comme, OK, quand il y a des candés, tu sais, quand il y a des candés comme narratif de ce personnage-là rencontre trop de personnages-là, je suis comme, OK, ceci est le fun, mais le reste, c'est juste. Cela dit, je trouve que la plupart de l'action est vraiment cool aussi. Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'affaires qui sont faites avec des vrais chars qui sont pitchés sur d'autres vrais chars pour de vrai, et ça, c'est cool.
Ouais.
Mais autrement, tu sais, ça, je suis vraiment comme ci, comme ça, avec le Fast Family, mais j'aimerais tout le temps ça être all-in.
Ouais, ben tu sais, on a regardé Mission Impossible il y a quelques semaines, tu sais.
Ouais.
Puis tu sais, en regardant le premier Mission Impossible, j'étais comme, Chris, Mission Impossible, c'est toujours la même affaire. Il se fait tout le temps passer pour un méchant à cause de, tu sais, des ripoux quelconques, tout ça. Puis je suis comme, Fast and Furious, c'est tout le temps genre, tu sais, le méchant, il faut qu'il devienne ton ami parce que c'est un gros acteur qu'ils veulent garder dans la franchise. Tu sais, c'est un peu grosso modo ce qui arrive avec les Avengers aussi, dans un sens. T'sais, Loki, mettons, il arrête pas de changer de bord.
Ouais.
Mais dans Fast and Furious, ça me semble plus transparent. Ben, mettons que bon, Cypher, qui est joué par Charlize Theron dans l'autre d'avant, elle revient ici. Puis là, elle a pas le même rôle. T'sais, elle a un rôle comme. Elle est pas dans la même position qu'elle a dans le premier. Puis c'est comme, c'est parce que, tu sais, c'est sûr, si t'as Charlize Theron qui veut être dans ton film, tu peux la mettre dedans. Tu vas la mettre, esti, là, on n'est pas capable, là, on le ferait aussi.
Mm-hmm.
Tu sais, fait que genre. C'est pour ça que je pense que, tu sais, à ce niveau-là, leur niveau de surenchère constante, à un moment donné, tu sais, il y a un plafond là-dessus. Là. Ça peut pas continuellement être ça parce qu'à un moment donné, ils sont incapables de laisser quelqu'un être méchant. Tu sais, ils sont laisser quelqu'un être mort et laisser quelqu'un être méchant. Fait que c'est difficile de, justement, faire ce genre d'émotion-là pure, comme tu disais, parce que Chris, à un moment donné, autant, peut-être plus que dans les Marvel, je trouve, les... Tu sais, tout se peut. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, bah ouais, OK, tu sais, comme je m'en crisse un peu.
Ludacris peut même... Ludacris sait maintenant aussi faire du kung-fu en plus d'être un hacker. Mais pour ce qui se passe dans F9, dans F9... Dans F9, Dominique Toretto, vu que tout ce qu'il aime, c'est la famille, il a pris sa retraite, lui et Letty, qui est joué par Michel Rodriguez. Puis là, ils vivent dans une ferme loin de tout.
Avec leur enfant, que je pensais qu'il s'appelait Brown au début. Puis là, non. J'étais comme, ça se peut pas que l'enfant s'appelle Brown, esti, mais Vin Diesel, il articule pas assez. Puis je pensais que l'enfant s'appelait Brun. Ça n'a pas d'allure.
Mais il s'appelait Brillant après c'est ce ça. Temps-là. Puis, mais là, ils se font juste rejoindre par leurs camarades. Ils sont comme, « Hey, notre Nick Fury s'est fait attaquer. Fait que là, faut qu'on le retrouve. » Et puis, c'est probablement... Puis, il s'est fait attaquer alors qu'il charriait Charlize Theron d'une place à l'autre.
Oui.
Cypher. Alors, nous devons la retrouver. Mais là, Dom réalise qu'il y a Anguille sous roche et que la personne qui est derrière tout ça est, bien sûr, Jacob...
Toretto.
Jacob Toretto, son frère, qu'il n'avait jamais mentionné d'ici là, qui est encore là dans un monde qui est régné par la famille, puis la fraternité, puis tout ça. Il n'a jamais mentionné, puis son frère, c'est John Cena.
Ouais.
Alors là, il doit... Puis John Cena, il est un super espion badass mercenaire. Qui on ne sait pas exactement comment il est devenu de même, mais en même temps, on ne sait pas comment Dominique Toretto et sa gang sont tous devenus du monde qui pourrait backer Ethan Hunt. On a aussi un flashback style Parrain 2 dans lequel on voit Dominique Toretto quand il était jeune, ainsi que Jacob, puis la mort de leur père.
Puis leur père qui a le même âge que eux, l'acteur qui joue leur père, ils ont tous, tu sais, ils sont indistinguables, là. C'est trois genres de jambons, là, d'à peu près le même âge.
Ouais.
Je comprenais pas. J'étais tellement mêlé, là, quand, parce que, tu sais, au début, ils disent pas leur nom, il fallait que les voir. Puis là, je suis comme, qui sont ces gens? Là, le gars qui joue John Cena est beaucoup plus petit que le gars qui joue Vin Diesel, ce qui n'est pas véritable, puis qui est même noté textuellement dans le film. « Ah, j'ai vu un gars, il te ressemblait, il avait ta grandeur. » Là, quand il était jeune, jeune, adulte, pas la même grandeur. En tout cas, ça, c'est tellement mêlant, là, ces hosties de flashbacks-là. Là, je comprenais rien. Quand l'affaire qui est sur le bord d'arriver arrive, quand le père des Toretto meurt, je ne savais pas qui était mort. Là, j'étais genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Sûrement que c'est émotionnellement important. Je ne sais pas de qui on parle.
Ouais, ben, tu sais, vu que je ne les ai pas toutes vues, comme quand il y avait l'adversaire, je suis comme, ah, c'est-tu un gars qui est dans les films lui aussi? Y a-tu un lien? Je me demandais s'il manquait des clés, mais c'était pas assez pour. J'ai vu des histoires auparavant, là, je comprenais. Mais bref, toute la bande est impliquée, puis là, il se bat contre Jake, son frère, en même temps. Puis là, c'est ça, ils sont à la recherche d'une patente, parce que c'est ça que tous les films de blockbusters sont maintenant. On court après des patentes. Puis
une patente très super héroesque.
Oui.
Aussi, là, genre juste une gogosse, une sphère avec des surfaces plates.
Qui va contrôler quelque chose. Oui, elle était tout de même très super, un film de super-héros, la patente. Puis encore là, il n'y a rien de mal parce que, tu sais, Raiders of the Lost Ark, tu cours après une patente.
Ça s'appelle un MacGuffin, ça existe. Là,
ça existe, genre. C'est pas un problème parce que c'est comment que tu cours après la patente.
Exact.
C'est intéressant. Mais, fait qu'il y a ça, et à travers ça, on court à travers le monde, il y a de l'action, il y a des scènes d'action de chorégraphie, de chars qui se passent dedans, qui sont vraiment le fun. Tu revois d'autres personnages, différents personnages de la franchise, comme justement, on retrouve justement, c'était dans le trailer, mais Han n'est pas mort, il revient finalement, qui est joué par Sung Kang, qui, de tous ces acteurs-là, est tellement cool sans aucun effort que je comprends pas que Vin Diesel accepte de partager l'écran avec lui. Là.
Mais ça, c'est une chose, là, on y reviendra, mais les acteurs qui jouent dans ce film, généralement parlant, pas très bons, je te dirais. T'sais.
C'est...
comme pas très mettons, pas beaucoup de range, tu sais. Ils font ce qui s'est écrit sur la boîte, c'est bien correct, là, mais...
Ben, c'est vrai, mais ce que moi, ce qui me surprend c'est avec ces acteurs-là, c'est que il y a pas tant d'affaires qui sont écrites à leur force non plus. Mm-hmm. Tu sais, comme... tu sais, les personnages de Tej, de Roman, de Tyrese et de Chris, tu pourrais fusionner ça en un personnage.
Ouais, ouais.
Dans les autres films précédents, tu vois, ils se battent un peu pour la douce attention de Nathalie Emmanuel,
mm-hmm.
qui est que je regarde avec respect.
Mais elle n'est pas
je crois que dans un film précédent, il souligne légèrement qu'elle préfère les femmes.
C'est ça, il me semble
mais
que ça a été...
Mais c'est pas adresse. Puis c'est comme, c'est comme le punch. Ah, c'est pour ça que ça se passait pas, les amis. Jamais les dames.
C'est la raison de ne pas vouloir coucher avec Ludacris.
Ouais, c'est
et son problème de trop manger. C'est lui qui... Non, c'est Tyrese qui mange trop de bonbons.
Ouais, Tyrese qui mange constamment. Mais bref, Nathalie Emmanuel qui est... j'arrive pas à croire qu'on peut regarder la regarder sur un grand écran. C'est incroyable. Puis, fait que c'est ça, il y a tous ces acteurs-là qui sont tout de même limités d'une certaine façon. Puis il y en a très peu qui, tu sais, tu le vois dans les scènes de Charlize Theron,
mm-hmm.
à quel point qu'elle dégage une affaire qui semble pratiquement sans effort.
Ouais, ouais, ouais.
Puis même chose avec Han, avec Sun Kang, qui est comme... Il y a un charme Han Solo-esque de « je m'en crisse d'être là ».
Ou Kurt Russell, tu sais,
qui
a un rôle très ingrat dans celui-là, qui est comme juste essentiellement dans un flashback en train de dire du exposition semi-inutile, je te dirais, genre, ouais. Comme le film se tient sans Kurt Russell, mettons. Mais ça, c'est une des affaires, mettons, que je pense qui manque. Puis tu sais, je comprends. C'est ça, en fait, c'est le problème avec « personne meurt, tout le monde est tout le temps dans ces affaires-là ». C'est qu'il n'y a pas de renouveau, il y a juste du rajout.
Ouais, ouais.
C'est rien qu'ils rajoutaient du monde par-dessus. Puis là, tu sais, c'est bien beau, là, rajouter Jason Statham puis The Rock, mais eux autres, ils sont trop big pour être dans tous ces films-là. Tu sais, mm-hmm. Misbelieve que Jonathan Brewster n'est pas en train de dire « Ah non, je peux pas faire Guardians of the Galaxy 3, faut que je fasse un Fast and Furious. » Tu sais, c'est correct, là, Chris. Encore là, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, c'est sa carrière, whatever, mais... Tu sais... C'est encore la surenchère qui a chié. J'aimerais mieux qu'il y ait des personnages plus intéressants, avec des comédiens plus intéressants, mais moins connus, moins typés, tu sais, genre sur leur affaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Charlize Theron, en fond, c'est idéal. C'est ça qu'il faudrait tout le temps. Tant qu'à rajouter constamment des personnages, tu sais, mets-moi un Michael Shannon là-dedans, mets-moi un, tu sais... Que ce soit, tu sais, Bern Gorman. Ça, c'est qui Bern Gorman?
Je sais, c'est qui Bern Gorman. Bern Gorman, un acteur britannique, peut-être que vous avez vu dans Pacific Rim, mais si vous l'avez vu, vous vous souvenez, c'est lui qui ressemble à Terrence ou Philippe mais de South Park, mais pour de vrai.
Ouais, ouais.
Il y a une grosse tête qui flappe, avec une bouche qui flappe.
Puis des petits cheveux, comme loin, loin sur le. Tu sais, même pas comme un receding hairline, là. Juste comme. Ses cheveux commencent loin, mais ses cheveux n'ont jamais commencé ailleurs que là.
Non, non, ils sont tous là. Ils sont comme la pin sur le top d'un bonhomme Lego. Là.
Ben, c'est ça.
Puis, il est vraiment écœurant. Moi, je l'ai connu dans des émissions, dans des shows britanniques.
Mm-hmm.
Puis, il jouait un creep assez merveilleux.
Ben, c'est ça. Fait que, mettez-moi des Bern Gorman. Mettez-moi, tu sais, au pire, là, aller chercher des René Jean Page, là, tu sais, puis du monde. Roger, Jean.
Le gars de Bridgerton.
Le gars de Bridgerton.
Ah, il doit être dû pour être là-dedans, lui.
Ben là, lui, c'est que ça va trop. Ça pop trop, là. Il va être dans un. Il va être dans Black Panther 2, genre, ou un affaire dans le même tout de suite, là. Mais tu sais, aller chercher du monde dans le même. Mais je pense que, tu sais, il y a un plafond à rajouter des lutteurs puis des stars de films d'action, tu sais, puis d'en faire, mettons, un genre d'Expendables.
Ouais.
Parce que c'est là aussi que là, le film se retrouve forcé à être un peu comme self-aware, tu sais, puis être un peu comme, ah, c'est-tu que beaucoup de monde avec des gros bras dans ce film-là, tu sais. Il n'y a pas de joke de gros bras ni de petites quéquettes dans celui-là, mais il y en avait plein dans Hobbs and Shaw.
Ouais, ben ça, c'est très The Rock, puis je pense que c'est peut-être aussi très Statham de faire ça. Mais justement, pour parler de John Cena, moi, je l'aime beaucoup, puis je trouve qu'à date, quand je l'ai vu dans les films, il ne faisait qu'ajouter. Je maintiens que dans Blockers...
Il est très drôle dans Blockers.
Il
n'y
a aucune pudeur humoristique. Il va tout faire pour un rire. Puis ça, je respecte ça. Mais justement, je trouve que à part une présence physique, Fast 9 ne retire rien de John Cena. Ça, c'est pas dans d'accord. ses forces. C'est pas...
Je trouve que John Cena, il a les cheveux les plus inquiétants. T'sais, John Cena, par moi, quelqu'un qui devrait pas avoir des cheveux. T'sais, ou je sais pas si c'est sa coupe de petite coupe de cheveux floppy qui est dans ce film-là.
Ben, m'a dit...
La coupe de bonhomme de cheveux, de bonhomme Lego, là, vraiment bizarre, là.
Pendant longtemps, il y avait juste un buzz cut à WWE, puis je pense que son crâne, c'est comme pas remis de ça, parce que quand il a commencé à se faire pousser les cheveux plus longs pour des rôles à Hollywood, mais il continuait à faire la lutte, il arrivait dans le ring, il enlevait sa calotte, puis il y avait comme... des cheveux, j'étais comme « Ah! Oh! Comment ça? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi? C'est quoi qui se passe ici? » Il y a quelque chose de plus naturel avec ses cheveux. Que, puis, tu sais, apparemment, que se faire poser des plugs de cheveux, apparemment que c'est extrêmement douloureux. Je serais pas surpris qu'il l'aurait fait pour le film, même si c'est extrêmement douloureux.
Ouais.
John Cena, c'est un weirdo dédié de même. Mais... c'est drôle parce que justement, je trouvais comme quand ils ont utilisé Jason Statham comme héros dans 8, je pense, dans 8, tu sais, je trouvais que c'était le film qui avait tiré le mieux profit de Statham depuis vraiment longtemps. Là. C'est pour ça qu'il y a eu un spin-off avec The Rock, dans le fond.
Ouais.
Mais sinon, ouais, t'as raison que les acteurs, tu sais, je pensais à ça l'écoutant parce que là, tu sais, n'importe quelle grosse machine de blockbuster, on sent qu'on doit. Comme un peu les comparer aux films de Marvel parce que c'est comme le blockbuster ovni, le mothership en ce moment.
Puis on assume que les gens qui font les autres blockbusters se comparent à Marvel aussi. Ouais, ils n'ont pas le choix.
Ouais, il faut que tu fasses, faut que tu zigues ou ce qu'eux autres ils zaguent.
Exact.
Puis j'étais comme, ah, contrairement à ben les films de Marvel, il n'y a aucun moment émotionnel qui est undercuté par une petite blaguette. Cela dit, il n'y a aucune blague qui est drôle dans ce film-là.
Non, c'est ça.
C'est, à chaque fois qu'il y a de l'humour, c'est comme « Hein? » C'est Ludacris qui disait à Tyrese « Je te dis que t'es con! »
Ouais.
Comme « Oh là là! Chris, que c'est drôle! » Là, je veux dire...
Ouais. Tu sais, moi, j'ai trouvé des affaires... Il y a des affaires drôles, genre il y a des cascades qui sont drôles. Puis je trouve ça drôle aussi. Il y a plusieurs scènes de des longs close-up de Vin Diesel qui regardent quelque chose qu'on voit pas. Puis ça, c'est drôle parce qu'on dirait qu'ils ont tourné tout un après l'autre, là. Genre, tu sais, qu'ils n'ont pas dit, genre, tu penses à ça, tu penses à ci. C'était juste comme, elle a l'air intense, Vin. Puis là, ils ont droppé à plein de places dans le film un 6 secondes de Vin Diesel qui a l'air intense. Et
comme, hé, je suis pas sûr.
Je trouve ça drôle parce que, tu sais, je veux dire, moi, je l'aime bien, Vin Diesel, mais tu sais, on va s'entendre que, comme j'ai dit, c'est pas le meilleur comédien du monde. Il est bon à faire certaines affaires. Puis là, plus ça va, plus. Tout le monde autour de lui est comme un peu funny. Puis lui, il reste extrêmement sérieux. Il veut, tu sais, il y a une scène où il va voir Michael Rooker. Michael Rooker est dans Faneuf, qui est un garagiste.
Ouais, un ancien mécanicien de pit crew, de NASCAR, non, de stock car.
Stock car, ouais. Puis Michael Rooker, il donne une bière. Puis Vin Diesel, il tient la bière. Comme quelqu'un qui a jamais vu une bière de sa vie. Il met ses deux mains dessus, fait qu'il la tient. Tu sais, pensant à une bouteille de bière, t'as la partie la plus large et, le goulot, là, le cou. Il met une main sur la partie large, l'autre main de l'autre côté sur le goulot, comme si...
Il voulait étrangler Michael Rooker.
Maintenant. Ouais, c'est ça, ou exact. Tu sais, puis il dit, oh, on est visité par un chien, bonjour. ça l'a vraiment bien encapsulé ce que je trouve qui est mauvais à propos de Vin Diesel comme... Tu sais, c'est que Vin Diesel amène une affaire pas naturelle à un film.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est difficile d'imaginer Vin Diesel exister dans le vrai monde. Puis ça, c'est sa force. T'sais. Sauf que là, je pense, on dirait que de plus en plus, ces films-là sont comme... Lui, c'est le cœur émotionnel du film. Il peut pas faire de joke, peut pas insulter ses amis, peut pas rien faire. Lui, il fait juste penser à la famille et à son enfant Brown. Tu sais... Puis là, c'est ça que je trouve qui est très dommage dans ce film-là. Tu sais, c'est que t'as une star d'action qui est essentiellement juste un genre de pilier émotionnel super flat.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, sur 2h25, à un moment donné, ça commence à peser. Parce que c'est ça, les autres comédiens sont pas tant bons. Lui, il est pas particulièrement...
Tu sais, c'est weird. Tu sais, à un moment donné, il y a... il y a un gag de comment que le personnage de Nathalie Emmanuel, je me souviens pas de son nom, Ramsey. Que le personnage de Ramsey, elle sait pas conduire.
Ouais.
Puis, fait que là, Vin, Dom, il dit par micro, par CB, par cell, mais qu'est-ce que t'as pas, tu vas l'avoir, tu sais. Puis là, moi, avant qu'il dise ça, j'étais comme, oh, on va-tu voir comme Dom, comme un genre de père qui apprend comme à sa nièce, mettons, ou sa petite fille, comment conduire, comme il y a la coach, comment conduire.
Mm-hmm.
Puis, ça arrive pas, tu sais. C'est bizarre qu'il est supposé être comme le cœur émotionnel de sa famille-là, mais il est tout de même en retrait.
Ouais.
Il est pas comme chaleureux ou paternel. Il hausse le barbecue à la fin, mais il fait rien d'autre. T'sais. Au début, tu vois, il vit sur une ferme. Et vers la fin, il y a un personnage qui change de légende dans le film.
Mm-hmm.
Et puis là, il dit immédiatement... Il va y avoir beaucoup de monde après toi, là, maintenant. Puis là, j'étais sûr qu'elle allait immédiatement dire, mais je connais une place où tu peux aller te cacher off the grid. C'est comme, il va inviter un ancien ennemi à vivre avec lui en communauté.
Exact. Ouais, ouais.
Ce n'est pas ça qui arrive.
Il
arrive pas ça. Fait que là, je suis souvent comme... Encore là, il est supposé être le cœur, mais il est jamais... Il est juste chaleureux un peu. Puis même pas tant que ça avec Michel Rodriguez.
Ouais. Puis même là, tu sais, sachant ce qu'on sait de Michel Rodriguez aussi,
mm-hmm.
leur chimie est plutôt mauvaise, hein, je te dirais. Ouais. Là, tu sais. Puis c'est aussi, c'est pas elle la mère de Brown, right?
Non, c'est Elisha Pataki,
okay.
qui est Madame Hemsworth.
Oui.
Qui était dans d'autres films auparavant, oui.
Ouais. C'est elle que Adrian Brody a fait construire un château, puis elle l'a laissé pour Chris Hemsworth.
Gars, hey, ça là, même... Ça, c'est un trade-up. C'est un trade-up de toutes les façons
possibles. Mais c'est pas pour Adrian Brody. Je pense pas qu'Adrian Brody, c'est... Ben, je sais pas. En fait, on sait pas. J'avoue que je devrais pas dire, genre, Adrian Brody a rien fait de mal. Genre de shit qu'il faut pas dire dans un podcast.
On se rappelle tous de quand il a créé son nouveau personnage Rastaman à SNL mm-hmm. pour représenter Sean Paul.
Ouais, ben, tu sais, faire des mauvaises jokes, là, si... C'était cancellé d'avoir des jokes poches, j'aurais plus d'amis.
Écoute, ben regarde, je pourrais être sorti du podcasting québécois pour ma blague au début de cet épisode-là, au sujet d'être right-wing. Mais bref, c'est ça. Tout ça pour dire que, tu sais, j'ai donné 3 étoiles sur Letterboxd. Je pense que le monde qui aime Fast and the Furious,
mm-hmm.
plus que moi, vont aimer ça, mais... Je pense que ces gens-là vont aussi être d'accord que c'est pas aussi bon que Fast Five, puis que ces films-là, peu importe ce qui arrive, puis il y a une affaire, c'est justement, là, c'est l'absence de Paul Walker change quelque chose à la chimie de ce groupe-là, puis parce que c'était comme le personnage qui parlait à tous les autres personnages, qui liait tout le monde ensemble. Puis vu qu'il est plus là, ben t'as du monde dans leur coin un peu, qui sont pas vraiment liés. Puis à cause de tout ça, c'est ça. À cause de ça, t'sais, ils vont toujours chasser Fast Five, puis je pense pas qu'ils vont le rattraper un moment donné, mm-hmm. mais t'sais, c'est tout de même bien, là, c'est correct. Là,
t'sais, ouais, ça. Ben tu sais, moi, ce que je te dirais, c'est en tant que personne qui trippe pas tant que ça sur ce genre de film-là, ou ce film, cette série-là en général, j'ai quand même passé un bon moment ce matin.
Mm-hmm.
Tu sais, c'était. C'est long, là, c'est long, c'est quasiment 2h30 comme film. Mais, tout de même, si j'étais comme, OK, ça a passé relativement vite. J'étais, tu sais, il y a eu un moment où, à un moment donné, j'ai comme cessé d'écouter ce que les gens disaient, puis là, j'étais mêlé, je comprenais plus rien. Mais, ça, c'est pas. Est-ce la faute du film ou de la mienne? Il va falloir réessayer pour voir si c'est ça. Tu sais, je pense que c'est le jury still out.
Mm-hmm.
Pour ce que c'est, pour tu sais, pour le 9e film dans une franchise en général, c'est très solide.
Ouais, ouais.
Tu sais, il n'y en a pas beaucoup des 9e films qui sont regardables.
Ouais, puis tu sais, quand ça arrive à l'occasion, des fois, on écoute des blockbusters moins bons
mm-hmm.
Pour les voyeurs de vue. C'est là aussi que tu vois que des fois, même un blockbuster juste correct, t'es comme, Chris, c'est bon pareil. C'est tough à faire. Ils ont réussi, c'est difficile.
C'est ça.
Fait que, je pense qu'on peut recommander Fast 9.
Ouais, ouais. Ben, tu sais, une recommandation qualifiée, dans le sens que, tu sais, je pense pas. Ça devrait pas être votre premier Fast and Furious.
Non, écoutez Fast Five. Écoutez Fast Five, là, si vous voulez en écouter un. Là.
Ouais, puis, exact.
Après, allez-y comme vous voulez dans l'ordre. Allez-y wildcard.
Exact.
Fait qu'on va terminer ça là-dessus. En attendant, Alex, les gens te trouvent où sur les médias sociaux?
Sur Twitter, je suis Alex Rose avec deux petites barres en dessous à la fin. Je suis sur Letterboxd, Why Does It Exist et Why Does It Exist sur Instagram. Cette semaine, au moment où vous entendez ça, mon épisode de On jase de films est sorti.
Oui.
Où je parle de films qui m'ont marqué. Et je chie sur le Joker en passant.
Oui, bien sûr.
Sinon, c'est ça, je pense. C'est pas mal. Donc, c'est ça. C'est là.
Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter, sur Instagram, sur Letterboxd. Et puis, c'est ça. Si vous aimez les voyeurs de vue, parlez-en à vos amis. Si vous voulez que nous donner un 5 étoiles sur Apple Podcast, on apprécierait. Puis, si vous le faites, à place de nous écrire une review, donnez-nous 5 étoiles, à la place d'écrire une review du podcast, écrivez ce que vous pensez d'un film que vous aimez. Puis vous pouvez même, puis on va lire votre review à l'épisode, puis vous pouvez même me contredire. Mettons que, c'est bien connu, nous autres on n'aime pas Joker, mais vous autres vous aimez Joker. Donnez-nous 5 étoiles, dites que Joker ouais. C'est du génie, on va le dire à l'antenne.
Mais tu sais, puis là c'est ça que je dis, ça faisait longtemps que j'avais enregistré l'épisode avec Guilla, mais... Ça se défend de dire que Joker, c'est bon. Moi, je suis pas d'accord.
Ouais.
Mais c'est pas quelque chose d'indéfensible.
Non, non, ça a gagné genre des...
À la Biennale. Non, Berlin. La Louvre d'or de Berlin. Ouais, non, ouais. La Louvre d'or, c'est au FNC. Bref, là, le Golden Bear. Ouais. L'ours d'or à Berlin.
Regardez, à la fin de la journée, moi, je suis juste un imbécile qui veut que mes affaires soient comme les comiques. Fait que mon opinion vaut ce qu'elle vaut. Mais en attendant, on vous invite à aller voir une vue.
Yes. Et voilà.